Vous écoutez France Culture. À voix nue. Hommage à Ahmed Ben Bella, premier président de l'Algérie, qui nous a quittés le 11 avril 2012. Redécouvrir des entretiens qu'il avait accordés à Séverine là-bas, c'était en mai 2005. Ce soir, Ben Bella, un révolutionnaire en exil.
Ahmed Ben Bella, bonjour. Hier, nous avons abordé vos années à la tête de l'État algérien, mais vous avez aussi connu l'exil, et ce sont ces années que nous allons évoquer aujourd'hui. Alors, à votre libération, vous avez milité en faveur du droit des Amérindiens et en faveur d'un nouvel ordre mondial. Est-ce que vous êtes un des premiers altermondialistes ?
Oui, je suis un des premiers altermondialistes, mais c'est lié à mon action quand j'étais au pouvoir, même bien avant. L'affaire des Amérindiens m'a intéressé. Alors j'étais en prison depuis très très longtemps. C'est une race qui a été liquidée. C'est pas simplement. C'est une race. C'est les premiers habitants d'un territoire, disons. C'est pas M. Bush qui est le premier habitant de ce territoire ou ses ancêtres. Ses ancêtres étaient ils appartenaient à une colonie anglaise, hein. Mais avant les États-Unis, il y avait une population, ce sont les Amérindiens. C'est le premier génocide de l'histoire, mais génocide total d'une race. Non seulement ils étaient dans l'hémisphère nord, mais aussi dans l'hémisphère sud, mais cela avait connu les affres de la liquidation, de rappelez-vous des Espagnols, etc. Cette histoire m'a passionné toujours, donc j'ai milité toujours depuis tout le temps, depuis la prison en faveur de ces Samaritains et aujourd'hui encore. Eux et une autre race aussi qui a été marquée au fer, c'est la race noire avec la traite, vous savez, qui a duré 400 ans. C'est une sale histoire. Donc ces deux races, la race rouge et la race noire, ça m'a habité ce crime. Il va déterminer tout ce que je vais faire par la suite. J'ai toujours milité à fond pour ces deux causes-là. Puis ça s'est élargi ensuite pour finalement la cause de tous ceux qui sont laissés pour compte dans ce monde.
Mais souvent vous jouez les intermédiaires parce qu'on vous a vu en Libye essayer notamment de réhabiliter le régime de Kadhafi sur la scène internationale, on vous voit dans le monde arabe, vous êtes un infatigable voyageur. Est-ce que c'est votre raison de vivre depuis que vous avez quitté la prison ?
Je n'ai pas cherché ça. C'est un idéal qui mène. Je n'ai pas pu réaliser dans mon pays ce que je voulais faire, mais j'ai quand même lancé ce mouvement. L'Algérie, quand même, a fait énormément pour l'Afrique, pour aussi l'Amérique du Sud. Tenez, Chavez, qui se rappelle que je l'ai dit avant, hein, ou bien Gustave Bravo, que je vois, qui était dans la Mozambique de la Vizora pendant 20 ans, etc., auquel j'envoyais des armes.
Alors, vous n'avez pas fait que militer pour l'altermondialisme. Vous avez créé en 1982 votre propre parti, le MDA, le Mouvement pour la démocratie en Algérie, que souvent on a défini de tendance proto-islamiste, qui a été dissous en 1997. Autour du MDA, il y a eu des affaires assez troubles, notamment l'assassinat de Ali Messili, qui était un agent de la sécurité militaire, qui projetait de rassembler l'opposition algérienne en exil. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette affaire Messili ?
Oui, Messili, c'était quelqu'un qui a agi, qui militait avec Aït Hamed avec le FFS, n'est-ce pas ? C'est un élément d'une très grande valeur morale. Il a fait beaucoup justement pour nous rapprocher, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a été liquidé. Je l'ai beaucoup connu, j'ai énormément apprécié sa dimension humaine, et j'ai connu aussi sa femme, puisque j'ai continué à la voir et à l'aider dans la mesure de mes moyens par la suite, parce qu'elle était restée un peu sans ressources. Donc nous avons essayé de faire quelque chose ensemble et c'est Messili qui a été liquidé. C'était du temps de Chadli. temps de Charlie. Et puis, finalement, voilà, il y a eu la décision après les événements d'octobre, les grands événements d'octobre, les liquidations dans les rues, etc. La
décision. Vous parlez des événements d'octobre 88.
Hein. 88, oui. Qui ont finalement amené un système, disons, plus ouvert de partis. De partis qui pouvaient se créer. Et c'est dans cette perspective que je suis entré en Algérie en créant le MDA. Mais j'ai vu que, au bout d'un certain temps, j'ai vu que l'espace réellement n'avait pas été ouvert. Et que c'était une, disons, démocratie fralatée qui était acceptée, avec des services qui faisaient les partis, et qui cassaient les partis, et qui étaient devenus vraiment expertes. Maintenant, même les Américains en profitent, hein, contre leurs ennemis, bon, contre Ben Laden, tout ça, je ne suis pas contre cela. Je n'ai jamais été, disons, un grand ami de Ben Laden, personnellement. Je suis pour une certaine récupération de la dimension islamique, mais pas celle de l'intégrisme, absolument pas. Je ne suis pas un musulman qui est transi. Hein. Je suis pour un islam ouvert, un islam qui s'ouvre. D'ailleurs, l'islam n'est pas la dernière création. Il est venu après le christianisme, après le judaïsme. Et vous ne savez pas beaucoup de choses qui nous séparent, sincèrement. Hein. Et surtout avec les juifs. Il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. Hein. Nous sommes, même la langue, eux parlent une branche de l'araméenne ou une autre branche, chez nous en tout cas, en Algérie, etc., avec les Juifs, on a vécu avec les Juifs. Moi, j'ai vécu toute ma jeunesse avec des Juifs. Non, je ne me retrouve pas dans un islam transi, qui a froid. Non, l'islam, je me trouve dans un islam où on retrouve les deux religions.
On vous a reproché beaucoup, depuis votre retour en Algérie en 1990, de vous être rapproché de la mouvance islamiste. Vous avez présidé la Commission islamique pour les droits de l'homme au sein du Conseil islamique mondial. Et vous avez dit un jour, l'islamisme est notre écologisme. Est-ce que l'islamisme est pour vous un avatar du nationalisme ?
Non, ce n'est pas un avatar du nationalisme. C'est le nationalisme qui est un avatar de l'islamisme chez nous, en tout cas. Non, l'islam, je pense qu'il m'est difficile de le retrouver quelque part aujourd'hui, et surtout pas dans ce qui existe, je dois être sincèrement. Et donc, je n'ai jamais été islamique au sens algérien, avec les courants islamistes qui existent. Jamais. Sincèrement, je pense qu'ils ont une responsabilité absolument écrasante dans le sang qui a coulé en Algérie. J'essaye de créer une réconciliation nationale. Je travaille pour cela. Parce que nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous devons avaliser ce que nous avons fait. Nous devons reconnaître ça. Mais sincèrement, les partis islamiques ont une responsabilité écrasante dans le sang qui a été, etc. Le régime aussi. Hein, le régime aussi.
Est-ce que justement vous pensez, comme certains observateurs, que le président Chadli est responsable seul de ce qu'on a appelé la décennie noire, c'est-à-dire les années 80, qui ont vu la montée en puissance de l'islamisme ?
Non, je ne partage pas ça. Je vous dis franchement, ce n'est pas. Voilà, tout simplement, ce n'est pas un mauvais type, Chadli. Sincèrement, ce n'est pas un type qui a assoiffé de sang, etc. Mais je pense que c'est là où on a donné le plus libre cours à la corruption. Hein. Mais lui, personnellement, n'est pas un mauvais personnage, sincèrement. Non. Et je ne pense pas qu'il était à la hauteur de la responsabilité qu'il assumait. Voilà, tout simplement. Il était dépassé et il l'a laissé faire. C'est à ce moment-là que beaucoup d'argent, beaucoup de choses sont créées chez nous, que nous sommes en train de payer aujourd'hui.
À quoi attribuez-vous la montée de l'islamisme en Algérie ?
Je l'attribue à quelque chose qui dépasse l'Algérie. C'est l'histoire. Ce qui se passe, c'est ceci, c'est qu'à partir d'une certaine date, eh bien, l'islam s'est arrêté. S'est arrêté et que ça ne marchait plus et qu'il fallait qu'il recrée les conditions d'un autre épanouissement. Il ne l'a pas fait. Et quelque chose s'est arrêté. Et puis, à partir de cette date-là, je le dis, vers le 14e siècle, 15e siècle, etc., depuis, il se cherche. Et c'est finalement, sa situation, la situation d'un monde qui n'arrive pas à produire ce développement et qui aussi est victime d'un système qui, depuis ce temps-là, depuis son arrêt, depuis donc la crise depuis 1492 et la découverte d'Amérique, un autre système a vu le jour, c'est ce qu'on appelle maintenant le libéralisme, le capitalisme, par petites touches successives. Voilà. Depuis 500 ans, l'islam est confronté à ça et il est confronté en tant que victime. Et nous, il a ses maladies. Je pense que ce qu'on appelle l'intégrisme, un certain intégrisme, c'est ça, c'est une des maladies, des graves maladies dans l'islam. Alors que c'est un islam, c'est une religion qui est tolérante, qui est un peu la dernière des religions monothéistes, etc. Donc qui a profité d'une expérience avant lui et qui devrait produire plus de tolérance. Plus. Il l'a fait à un moment donné, de 1000 à 1400, etc. Il ne le fait plus. C'est des maladies qui sont le produit, évidemment, d'un blocage interne, mais aussi des atteintes extérieures d'un Occident qui a commencé à produire un système capitaliste, etc., croyant faire peut-être le bonheur des gens, mais qui fait qu'actuellement, bien 35 millions de personnes, c'est ce que je dis, le terrorisme dont on parle, il y a un terrorisme, mais ce n'est pas celui qui nous dit. Oui, il existe celui-là. Mais c'est les 35 millions qui meurent de faim chaque année, alors que la production mondiale pourrait s'y faire à 9 milliards d'individus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le programme du PNUD. Eh bien, 35 millions meurent de faim chaque année. C'est ça, le vrai terrorisme. Oui, il y a l'autre aussi, de l'intégrisme, etc. Je suis d'accord. Oui, parce que l'islam a produit aussi ça. Il a produit ces maladies aussi infantiles qui sont le... Mais l'islam n'est pas ça. Moi je ne me reconnais pas dans cet islam.
Et alors, en quoi l'islam pourrait-il représenter une alternative au système occidental?
Justement, il ne faut pas qu'il prétende apporter... Une alternative à tout le monde. Je pense d'abord qu'il faut qu'il commence à s'occuper de lui, à guérir les maladies dont il souffre, et notamment l'intégrisme. Bon, donc il faut qu'il produise quelque chose de plus nouveau, de plus, etc. Et donc surtout la tolérance, puisque maintenant c'est ça. L'important c'est ça, c'est de se reconnaître dans l'autre, c'est de s'approcher de l'autre, c'est d'aider l'autre, c'est de faire avec lui, etc. Voilà l'islam dangereux, moi. Donc, ce n'est pas ça qu'on voit malheureusement, c'est l'intégrisme, c'est des gens qui, même à l'intérieur de chez nous, ne connaissent pas l'autre.
Et est-ce que vous pensez que l'islamisme est une fatalité pour le monde arabo-musulman, ou est-ce qu'il y aurait une place pour une démocratie musulmane comme il y a eu une place pour une démocratie chrétienne en Occident?
Non, il ne faut pas mélanger les genres. Ça ne veut pas dire que la démocratie, c'est l'Occident uniquement, etc. Je ne crois pas qu'il faut se voyer. Non, moi je crois que, d'abord parce que la religion est la plus nouvelle, puisqu'elle se reconnaît dans les deux autres, qu'elle doit être très tolérante. L'islam n'a été grand que lorsqu'elle a été très, très tolérante. Voyez les Juifs. En Andalousie, les deux tiers de la population juive du monde étaient là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Lisez Maïmonide, lisez Averroès, et vous voyez, c'est quelque chose de formidable. Moi, chez moi, en Algérie, j'ai vécu toute ma jeunesse avec des Juifs, dans la même maison. Voilà ce que l'islam doit se reconnaître dans le christianisme et dans le judaïsme.
Les terroristes du GIA se sont nommés Moudjahidines. Évidemment, ce n'est pas un terme neutre en Algérie, puisque les Moudjahidines, c'était les combattants du FLN. Et les islamistes algériens prétendent être les continuateurs de l'œuvre du 1er novembre 1954, qui n'aurait pas été achevée en 1962 et qui aurait été finalement reprise par les mouvements armés type GIA. Que pensez-vous de cette espèce de détournement de l'héritage nationaliste par les islamistes, notamment les islamistes armés?
Moi, je fais confiance au bon sens des Algériens, et pas seulement des Algériens, de tous les musulmans. Je ne crois pas sincèrement que ces mouvements nous aient apporté une réponse au grand problème qui se pose, non seulement à nous, mais aussi à ceux qui ne sont pas musulmans. Je ne crois pas aux solutions qui soient bonnes uniquement pour les musulmans et pas pour les chrétiens et pas pour les juifs ou pas pour des gens qui ne croient pas. Voilà, je ne crois pas à ça. Et ce n'est pas ça ce que je cherche d'abord. C'est l'homme qui m'intéresse personnellement, qu'il soit musulman, qu'il ne soit pas, etc. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je ne peux pas accepter que quelqu'un meure de faim. Avec moi, je ne peux pas l'accepter, ça. Je dis que nous sommes tous responsables. Ça me révolte. Mais 35 millions meurent, c'est ce que nous dit le rapport mondial. 35 millions meurent de faim chaque année. C'est ça le problème, c'est pas ce que dit M. Bush. Bush veut mettre la main sur la première réserve du monde de pétrole et de gaz. Je la connais, je suis allé 15 fois, moi, en Irak. Zora a été 5 fois avec moi. Je connais bien la situation là-bas. C'est ça qui les intéresse. Elle n'est pas la deuxième, elle est la première, même plus que l'Arabie saoudite.
Alors vous parlez de Zohra qui est à nos côtés, qui était à nos côtés hier, qui vous couve de son regard. Et finalement, elle disait qu'au départ, quand elle vous avait connue, elle avait refusé de vous épouser parce qu'elle ne vous trouvait pas assez à gauche. Mais finalement, vous êtes devenu gauchiste à sa fréquentation.
C'est trop bizarre. Moi, mon plus grand ami était Guevara. Alors écoutez, hein, si elle voulait être, je sois encore plus à gauche de Guevara. Mon seul grand ami, mon seul, c'est Che Guevara, c'est pas un autre.
Racontez-nous quand il est venu en 63 à Alger, comment ça se passait?
Eh bien, il était venu en Algérie, ça se passait, voilà, c'était au moment où lui avait une grande idée, comme il est généreux, comme lui, il parlait des mille fuegos, c'est les mille feux. Il est venu au pays qui pouvait le plus aider à ça, voir Ben Bella, parce que et j'ai rêvé de ça, moi. Je voulais créer ces mille feux avec lui. C'est moi qui l'a aidé à aller au Congo, vous savez. C'est moi qui le visa. Même je voulais l'envoyer dans un avion. Il m'a dit non, je n'ai pas de seul dans un avion. Je vais de ma propre façon et je l'ai aidé donc pour aller là. Mais je partageais toutes ses idées. Voilà, c'est comme un frère pour moi. Je crois que c'est le meilleur homme que j'ai jamais rencontré de ma vie.
Et finalement, est-ce que quand vous regardez votre passé, cet engagement tiers-mondiste et puis votre nationalisme, est-ce que vous n'avez pas le sentiment...
Non, ne dites pas, je ne suis pas nationaliste. Dites-vous alors. Je suis internationaliste, moi.
Et vous étiez déjà internationaliste quand vous étiez jeune militant du FLN, le 1er novembre 54?
Tout le temps. J'ai dû accepter mon temps et donc agir. On m'a collé l'affiche de nationaliste. Je n'ai jamais été nationaliste, quoi, comme Algérien. Non, c'est une petite chose, l'Algérie, pour moi. Je n'ai jamais été un nationaliste comme eux. Non, jamais.
Alors, si vous observez les nationalistes algériens et plus généralement les nationalistes arabes, est-ce que vous avez le sentiment que le nationalisme a échoué?
Oui, je pense que c'est le nationalisme, je pense, c'est une petite dimension, tout à fait. Je ne pense pas que ça fait un grand projet, disons, humain, je ne crois pas, sincèrement.
Mais y compris le nationalisme arabe, qui avait vocation à rassembler toutes les nations arabes, est-ce qu'il a échoué?
Ça a été une étape, je pense. Quelqu'un comme Nasser a endossé ça. C'est un grand monsieur, je l'ai connu très très bien. C'est un grand monsieur. Mais nationalisme arabe, bon, il est limité aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est la nation arabe. Bon. Je ne pense pas que ce soit un grand capital sur le plan idéologique ou sur le plan, des ressorts qui peuvent amener à de grands actes dans la vie. Je ne crois pas, sincèrement.
Alors j'entends Zohra qui dit tout doucement « t'exagères ». Zohra, qu'est-ce que vous pensez du nationalisme?
Moi, je trouve que je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Bien sûr, même si c'est une étape, mais on doit passer par cette étape. Regarde l'Europe qui est en train de s'unir. Si le nationalisme arabe avait réussi, les nations arabes se seraient réunifiées. Donc on ferait quelque chose comme l'Europe.
Je ne fais pas la différence entre, sincèrement, l'islamisme et l'arabisme. L'arabisme tout seul, moi je suis si c'est l'arabisme tout seul, je suis un berbère. Là, c'est l'islam qui m'a amené à endosser la dimension culturelle arabe.
Mais alors finalement, quand le fils disait, il y a un sociologue qui dit que finalement l'islamisme c'est le troisième étage de la fusée, c'est-à-dire qu'il y a eu le premier étage, l'indépendance politique, ensuite le deuxième étage, l'indépendance économique, et que l'islamisme serait le troisième étage, c'est-à-dire l'indépendance culturelle. Est-ce que vous partagez cet avis?
Ce sont des qualifications qui sont comme ça, qui sentent bien, etc. Moi, je vais au fond des choses. Je ne fais pas de différence. Je fais la différence entre le nationalisme qui est le nationalisme d'une région ou d'une plus grande région, etc. Ça ne m'intéresse pas sincèrement ce nationalisme. Je lui reconnais son droit de cité, etc. Je me reconnais dans une chose qui concerne une humanité entière. Voilà.
Alors, si vous ne croyez plus dans le nationalisme ou si vous n'y avez jamais cru, le FLN, dont vous êtes un membre fondateur, a-t-il encore droit de cité, alors même que sa légitimité, c'est le nationalisme algérien?
Non, écoutez, j'ai dit déjà, je vais, ça va peut-être faire que c'est beaucoup dans l'Algérie, mais je dis sincèrement, moi, je pense que le FLN a été une énorme école. La preuve, c'est qu'il y a 35 FLN, vous savez, ce que nous avons fait en Algérie était un instrument formidable pour la période de libération nationale. Mais la FLN dans le Vietnam, on a 35 en tout, on a compté dans le monde. C'est vraiment une vision historique. Je pense que le FLN, c'est une énorme chose, une énorme école, mais qu'elle a terminé sa fonction dès l'instant où nous sommes rendu, disons, indépendant, elle a terminé sa fonction. Et que nous ne devons pas, par respect justement à ce sigle extraordinaire qui est devenu mondial, etc., un jour il va falloir créer un grand monument et dire le FLN c'est ça, et tous nous incliner devant ça. Et que nous n'avons le droit maintenant de se dire je suis le FLN, n'est-ce pas, hein? Voilà ce que je pense. Un jour, et ce jour-là, vraiment, ce serait une grande joie pour moi. C'est que tous les Algériens se disent, nul n'a le droit de mettre cette tarif. Il faut le dire parce qu'il est autre chose, le FLN, sincèrement. C'est une chose extraordinaire qui appartient à tout un peuple, mais pas seulement à tout un peuple, à énormément de peuples. Par respect, il faut le rendre à ces peuples-là. Et celui qui veut faire de la politique choisit un sigle autre que le FLN.
Alors, c'est sur cette injonction que nous allons nous quitter aujourd'hui. Ahmed Benbella, merci beaucoup. Zohra Benbella, qui est près de votre époux, merci beaucoup à vous. Et on se retrouve demain, si vous le voulez bien.
C'était À voix nue, hommage à Ahmed Benbella, que Séverine Labat rencontrait en mai 2005. Attachée d'émission Claire Poinsignon, réalisation Mehdi Elange, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant 2 semaines sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Séverine Labat avec Ahmed Benbella.
في غماسس ميت زقرم أشحال ثن مضرم ذي برامي هو جلن لعوام النثات سمثن ميثر وامث جهلم ولاد الاحباب تجمثن اخويا يثاي غريبن اسيف يبوي كن ماشي ذاك سر ذا سوان ظلازكني ديسر ولني تبعكني دطلام تجم الحباب ديما ولا نترون دق وذرار
ظلازكني ديسر ولني
تبعكني دطلام
تجم الحباب ديما ولا
نترون دق وذرار لا قصاص تسوميني عدا ذين نتوامن شحال تتصمد قبردن فرانكور تسعة خلاص تسوميني عدا ذين نتوامن شحال تتصمد قبردن فرانكور تسعة في الحامي لاصدق زنقا ديش توا عريان ثورة سعى مثل فرانك ربي ترقمم في الحامي لاصدق زنقا ديش توا عريان ثورة سعى مثل فرانك ربي ترقمم
خلاصوني ديس الولان
يتبعكوني تطلام
تجم الأحبام ديما ولان
سرون دق وذرير
خلاصوني ديس الولان
يتبعكوني تطلام
تجم الأحبام ديما ولان
سرون دق وذرير قاد غلاين في دروح ما تخدمم في جمث النتسم تجيذن مزون تموثم ولا ذوي قاد غلاين في دروح ما تخدمم في جمث النتسم تجيذن مزون تموثم تصمح مولا ذي رمضان تغلب من الكفار لطاية روح ذي الريكار يرسد وقمار تصمح مولا ذي رمضان تغلب من الكفار لطاية روح ذي الريكار يرسد وقمار
خلاصوني ديس الولان
يتبعكوني تقلام
تجم الأحبال ديما ولان
سرون دك ودرير
خلاصوني ديس الولان
يتبعكوني تقلام
تجم الأحبال ديما ولان
سرون دك ودرير باب قثمور تشتاقن أغرو ما تتشن كنوي قتبر ناس شاقم شريق مذري من لحباب قثمور تشتاقن أغرو ما تتشن كنوي قتبر ناس شاقم شريق مذري من يبا سكن سبعين ساخم ونين نذاين لتزير التامور ثنون السنة ندمام يبا سكن سبعين ساخم ونين نذاين لتزير التامور ثنون السنة الندمة
لغرازكني ديس الولان
تبعكني تطلام
تجم الأحباب ديما ولان
تسرون دك وذرير
لغرازكني ديس الولان
تبعكني تطلام
تجم الأحباب ديما ولان
تسرون دك وذرير